les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Cindy Willem, Nathanaël Picasse, Alexandre Marlier.
S'il est bien une série qui a fait parler d'elle à l'époque de son lancement, c'est bien Ally McBeal. Il faut dire qu'elle fut l'une de celles à consacrer le second âge d'or des séries à la fin des années 90. Bénéficiant d'une image sulfureuse au moment de sa sortie et d'une campagne marketing très agressive, Ally McBeal a fait l'objet de nombreux articles dans une presse généraliste plutôt complaisante à l'époque envers les séries télévisées considérées alors comme un genre mineur. Créée par David Kelley, aussi responsable de The Practice ou Boston Public, la série fera les beaux jours de la Fox aux États-Unis et de M6 en France pendant 112 épisodes répartis sur 5 saisons. La série révélera Calista Flockhart, future Madame Harrison Ford aux yeux du grand public, mais également Portia de Rossi, Lucy Liu ou encore Hayden Panettiere, sans oublier la présence durant presque toute une saison du charismatique Robert Downey Jr. Presque 10 ans après l'arrêt de la série, Nathanaël Picasse revient sur les raisons de ce succès. Bonjour Nat.
Bonjour Alex.
Alors Nat, que reste-t-il réellement d'Ally McBeal avec le recul, l'hystérie médiatique que la jeune avocate a provoquée était-elle justifiée?
Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien faire un petit tour de table, justement, vous demander à vous deux, si je vous dis Ally McBeal, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quels sont les moments forts ou qu'est-ce que vous avez retenu de cette série?
Quand j'y repense, c'est vrai que ça fait déjà un bail, mais je retiens surtout, c'est tous les espèces de gags alentour d'elle. Bon, c'est une personne assez réservée, en même temps, il y a ces épisodes où il y a de la musique, il y a le bébé dansant et surtout Barry White était dans les toilettes. Je pense que c'est vraiment l'image que
ça,
j'ai d'Ally McBeal.
C'est la grande image, effectivement.
Alors moi, j'ai l'image de Ally faisant l'amour fantasmé dans une tasse à café géante. J'ai aussi John Cage en train de danser sur la scène du bar avec Barry White pour son anniversaire. Les toilettes mixtes, évidemment.
Ce qui est absolument inconcevable aux États-Unis, bien
oui,
entendu.
Oui, tout à fait. Ling qui arrive sur la musique de la méchante sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz. La pièce secrète de John Cage située dans un ascenseur. Le truc le plus improbable de la Terre.
C'était très drôle, effectivement. Donc c'est vrai que ce qu'on retient d'Ally McBeal, c'est effectivement des personnages très décalés. Un humour visuel, en fait, qui est totalement dans le Tex Avery, où on voit souvent les pensées d'Ally McBeal. Une bande sonore extrêmement développée. Et ça, on verra effectivement, même maintenant après, c'est rare d'avoir une série qui a autant marqué les esprits au niveau de la musique que Ally McBeal, son humour, et aussi c'était en tout cas considéré comme à l'époque comme une série féministe. On mettait en avant une femme qui travaillait, qui était soi-disant forte, indépendante, qui n'avait pas peur d'avoir des relations sexuelles, enfin qui était assez libérée sexuellement. En tout cas, c'était comme ça qu'on nous l'avait présenté. On se souviendra d'ailleurs qu'on avait beaucoup parlé des jupes très courtes de Calista Flockhart, qui fera d'ailleurs l'objet d'un clin d'œil dans un épisode, puisqu'elle se fera mettre en prison parce qu'elle a des jupes trop courtes. C'est ce qu'on a retenu de la série. Et j'aimerais bien remettre maintenant les choses à plat, maintenant que l'hystérie marketing est passée derrière, et voir qu'est-ce qu'il en reste effectivement avec un petit peu de recul. Petit retour sur l'histoire, parce que bon, pour nous ça semble assez évident évidemment, l'histoire d'Ally McBeal, peut-être que pour les jeunes qui se lancent dans le monde des séries, c'est peut-être pas aussi évident. Ally McBeal, c'est une jeune avocate ambitieuse, en fait, qui se fait congédier par son patron lors de l'épisode pilote parce qu'il avait eu la mauvaise idée de lui mettre la main aux fesses. Évidemment, elle n'avait pas trop apprécié. Dans la rue, elle rencontre Richard Fish, en fait, un avocat qui a monté sa propre boîte et qu'elle avait connu lors de ses études. Un personnage qu'elle aime pas forcément. Venant de se faire licencier, évidemment, elle n'avait pas le choix que d'accepter cette offre-là. Alors, étonnamment, quand elle arrive dans ce cabinet qui a été créé par Fish avec John Cage, eh bien, elle va rencontrer son amour d'enfance, Billy, qui est aussi avocat et qui se trouve être marié entre-temps avec Georgia. Je reviendrai plus tard sur ce fameux triangle amoureux qui a été un des grands morceaux, on va dire, de cette série. Je vais d'abord m'attacher sur aussi tous les personnages secondaires qui ont aussi marqué l'histoire de la série, en commençant par Richard Fish, un personnage assez fantasque, effectivement. Lui, son but ultime, c'est gagner de l'argent. S'il a créé un cabinet d'avocats, c'est pour l'argent. Il est très connu aussi pour ses fichismes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est des théories qu'il a sur la vie qui sont assez particulières, hein. Chacun jugera, j'en avais noté quelques-unes juste pour le plaisir. Se remplir les poches de pognon, si au passage ça aide la veuve et l'orphelin, tant mieux. Nous allons tous à un enterrement, venez avec nous, on va se marrer. Pouvoir apporter son aide et servir en même temps ses propres intérêts hautement gratifiants. On situe un peu le genre de personnage assez vénal. Et alors aussi qu'il y a une particularité, c'est qu'il aime beaucoup les femmes plutôt âgé parce qu'il a un fétichisme envers les fanons, donc ce pli qui est au niveau du cou, juste sous la gorge. Et donc, il adore caresser les femmes à cet endroit-là. Et évidemment, si la femme est un peu plus âgée et que ce pli pend un petit peu, ça l'excite d'autant plus. C'est la première fois que je voyais ça dans une série, personnellement. Et c'était assez bien vu, assez drôle et assez truculent aussi.
Il y avait ça, et déjà dans le début de la série, c'est assez culotté d'aller sortir ça. Et puis, il y avait le juge Doyle, qui est un petit vieux mais absolument lubrique, et on le voit d'ailleurs dans un flashback où il fait l'enterrement de vie de garçon de Billy, où il est en sous-vêtements en train quasi de se taper la stripteaseuse, quoi. Donc
oui, et
qui est assez osé.
Et ce juge-là qui avait aussi cette particularité d'aimer regarder les dents des avocats ou des personnes qui étaient présentes dans le tribunal, parce
Let
que
me c'est, see your teeth.
C'est ça, voilà. Et c'était un des personnages les plus truculents d'ailleurs, qui disparaîtra malheureusement dans la saison 2. Petite dernière parenthèse sur Richard Fish. Ce qui est assez marrant dans l'évolution du personnage, c'est que autant il avait l'air d'être plus attiré par les femmes âgées au départ. Après, il finira par sortir avec Ling, dont je parlerai bien sûr tout à l'heure. Et finalement, il finira par épouser Lolita, qui est jouée par Christina Ricci. Et donc là, on a une sorte de renversement de situation où tout d'un coup, il épouse une petite jeune quand même. Donc bon, assez particulier. Alors, il y a aussi John Cage, qui est l'autre associé de cette fameuse boîte, brillant avocat. C'est vraiment le spécialiste des causes perdues d'avance. À chaque fois qu'il annonce un peu la cause qu'il va défendre, on se dit, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que c'est indéfendable, mais il y arrive parce qu'il faut dire qu'il a plein de trucs et astuces pour déstabiliser et à la fois le jury et la partie adverse et le juge. On se souviendra de ces petits clics qu'il met en place au lieu de faire l'objection parce qu'il a un polype à la gorge, de ses chaussures qui font du bruit, il se met à chanter de temps en temps, il demande au jury de participer, de répondre à certaines de ses questions.
Mais vu ce que verser de l'eau avec la cruche très très haute, histoire que ça fasse beaucoup de bruit pendant que le témoin est en train de témoigner.
Il avait aussi un moment de préparation avant de rentrer toujours dans le tribunal avec cette fameuse musique avec des cloches qui se mettent en route comme ça, et on savait que là ça allait chauffer. C'est aussi un adorateur de Barry White, d'ailleurs on remarquera que la série a remis au goût du jour Barry White. Je ne sais pas ce qu'il en était aux États-Unis de la situation de Barry White, mais en tout cas en Europe je pense qu'il était un petit peu passé dans l'oubli, et ça lui a permis de revenir quand même. Enfin, on a tous maintenant en tête encore la chanson My First, My Last, My Everything. Et je voulais encore parler du personnage de Ling, mais avant de l'introduire je propose qu'on écoute un petit extrait qu'il a mis en scène notamment dans une de ses premières affaires. C'est une femme en fait qui est arrivée dans la vie du cabinet en poursuivant en justice énormément de monde pour tout et pour rien. Ici en l'occurrence, elle poursuit en fait une infirmière parce qu'elle a fait refaire les seins à sa sœur, et elle avait pris comme modèle l'infirmière, mais l'infirmière n'avait pas fait refaire ses seins. Et donc on se retrouve maintenant dans une situation où Ling demande aux avocats de comparer les seins de ces deux femmes, et on va voir qu'elle est plutôt forte en gueule.
La prochaine fois, Ling, offre-moi des fleurs.
Ça ne sera pas long.
Elles sont très belles. Et les deux paires.
Vous voulez une loupe, peut-être?
Je vérifiais les cicatrices.
C'est du très beau travail. On ne voit rien. C'est magnifique. Magnifique.
Les seins de Mademoiselle Silverman sont réels.
La comparaison est des plus étonnantes. Et il faut l'avouer, c'est du travail d'orfèvre.
Peut-être qu'ils se ressemblent, mais au toucher, ils sont différents.
Bien, vérifions si...
Non, je regrette. Vous ne toucherez pas ces femmes. Vous êtes devenue dingue. Saute, montre-leur qu'ils ne bougent pas. Votre sœur ne sautera pas. La séance est terminée. Rhabillez-vous.
De quel droit?
J'ai dit que c'était terminé. Et en tant qu'officier de justice, je demande l'arrêt immédiat de cette mascarade. Les seins de cette jeune fille sont parfaits, même s'ils n'ont pas exactement le même toucher que ceux de mademoiselle. Mais enfin, vous saviez qu'il y avait un risque.
C'est ma sœur qui attaque, pas moi.
C'est moi qui...
Maintenant, ça suffit, Ling.
Avec un L et un G aussi dur que la pierre, et quitte à ce que vous me traitiez encore de frigidaire, tant pis, je déclare que l'affaire est classée.
Je ne savais pas si je devais aimer ou haïr ce cabinet, là je n'ai plus de doute.
Ling n'avait pas trop l'air d'aimer ce cabinet, donc à la base, pourtant, elle va quand même terminer par travailler là.
Oui, et en fait, et ça, c'est à mon avis une entourloupe des scénaristes, parce que c'est un personnage qui est apparu juste pour quelques épisodes, puisqu'à la base, c'était juste une cliente qui faisait appel à Nell, qui est une nouvelle recrue de KG Fish. Mais je crois qu'elle a tellement plu au public qu'ils se sont dit, il faut absolument la faire revenir. Et puis, il faut dire que Lucy Liu aussi a du charisme, hein. Je veux dire, c'est un personnage haut en couleur.
Tu ne l'as pas vu dans Les Anges se déchaînent, alors.
Si, mais ça, c'était absolument affreux, mais bon, là, c'était une grosse erreur de parcours, on va dire. déjà le premier était pas extraordinaire non plus, mais bon, parenthèse refermée, ce personnage a tellement plu bah, qu'ils ont dû trouver une solution pour la faire revenir, et elle pouvait pas poursuivre quelqu'un en justice à chaque épisode, et donc en fait Nell apprend aux autres qu'elle a connu en fait Ling en faisant ses études d'avocat, et en fait que Ling est avocate avant d'être femme d'affaires. Ling en fait va décider d'arriver dans ce cabinet d'avocat, mais pas du tout parce qu'elle a besoin d'argent, mais parce que ça l'amuse en fait. Elle a rien d'autre à faire quelque part. C'est un des personnages, moi en tout cas, qui m'a le plus marqué dans cette série, parce qu'il est extrêmement fort, indépendant, plutôt agressive. On se souviendra effectivement de cette musique aussi qu'il annonce à chaque fois qu'elle arrive, la musique de la sorcière du magicien d'Oz, qui permet déjà de mettre une grille d'interprétation sur le personnage assez fabuleuse. C'est aussi un personnage qui dit ce qu'elle pense, qui est sexuellement assez affirmé aussi, et donc tout ce qu'Ali n'est pas, en fait, finalement. Et à côté de ça, il y a aussi un autre personnage qui est un peu plus affirmé aussi, c'est Hélène, la secrétaire d'Ali McBeal.
J'adore Hélène.
Hélène, oui, qui est jouée de manière extraordinaire par Jane Krakowski, qu'on en retrouve après dans 30 Rock et qui est assez extraordinaire aussi dans ce rôle-là, dans 30 Rock.
Qui joue d'ailleurs un rôle assez similaire, finalement, puisque c'est aussi une personne assez fantasque, qui aime chanter, qui aime se mettre en avant.
À croire que l'actrice est un peu dans ce style-là.
Ouais, il y a une filiation, quand même, entre Hélène et son autre personnage.
Et ce qui est assez marrant avec Hélène, c'est qu'on la présente comme une secrétaire nymphomane, elle se fait traiter de salope assez facilement et elle a pas l'air de s'en offusquer. Mais finalement, je trouve qu'elle est assez chaste quand on regarde les 5 saisons. Oui, elle a quelques aventures. On n'est pas dans Sex and the City non plus. On en est quand même carrément.
C'est pas elle qui couche le plus dans le cabinet, ça c'est sûr.
Non, ça c'est certain. Et ce qu'il y a de très particulier aussi avec ce personnage, c'est qu'elle invente de nouveaux objets, en fait. Elle a inventé un soutien visage, un caleçon réfrigérant, et donc on la voit systématiquement en train de tester ses nouvelles inventions sur les autres avocats. Et donc c'est vraiment un chouette personnage. Il y a vraiment une galerie comme ça. Ling, Hélène, Richard, John, qui sont assez hystérique, assez farfelu, assez fantasque, et qui pour moi, même quand on regarde la série 10 ans après, ben font encore plaisir à regarder.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le fait que les seconds rôles aient été si fortement développés et si fortement caractérisés ne dessert pas le ou les personnages principaux?
Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est vrai que là, on se rend compte, et d'ailleurs, ça c'était très fort dans la saison 3, Ali McBeal passe clairement au second plan, on met en avant les personnages secondaires, mais on met en avant-plan aussi toute leur folie, ce qui fait qu'après il n'y a plus de point d'attache non plus, et ils deviennent vite irritants parce qu'ils ne sont que dans cette folie, dans cette hystérie tout le temps.
Parce qu'au départ, John Cage est quasiment pas présent, non. Et c'est à partir de la saison 2 où il est ultra présent, oui, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs.
Hein, c'est sûr. Non, c'est vrai qu'au début, quand elle arrive dans ce cabinet de Cage et Fish, elle connaît que Fish, et Cage apparaît lors d'une poursuite en fait judiciaire où il est attaqué lui-même en justice, et là c'est Ali qui le défend, et tout d'un coup on se rend compte que c'est un bon avocat et il commence à prendre de l'ampleur. Et parmi ces personnages très forts, effectivement, Ali McBeal finalement paraît assez faiblarde. Et puis il y a d'autres personnages qu'on avait annoncés comme très forts aussi, comme Nell, qui arrive à la fin de la saison 1, qu'on appelle Sub-Zero Nell, donc Nell la banquise, je crois que ça avait été traduit en français, comme une femme extrêmement indépendante, forte, glaciale, et qui se fait complètement voler la vedette par Ling. Et donc on ne pouvait pas mettre deux personnages comme ça aussi caractéristiques, et surtout avec des caractéristiques assez semblables. Et donc Nell s'est assez fort effacée, elle reste lors des saisons suivantes, mais je trouve qu'elle a quasiment aucune saveur. Elle est bien gentille finalement, alors qu'on l'amenait comme quelqu'un limite inhumain, et finalement après 2 épisodes on se rend compte qu'elle est toute gentille. Donc ça c'était assez dommage.
C'est amusant ton analyse sur le personnage principal, parce que j'ai l'impression de te réentendre sur le personnage principal de Buffy contre les vampires.
Non, je trouve Buffy beaucoup plus intéressant,
ouais,
que
les McBeal. Si on réécoute ton analyse de Buffy,
oui,
c'était aussi de dire, ah tiens, les personnages secondaires sont parfois beaucoup plus intéressants, oui, notamment Willow, et son développement est plus intéressant que Buffy, qui finalement reste très monolithique sur la durée.
En fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'Ali McBeal, et ça j'y reviendrai plus tard, c'est la position dans laquelle ils l'ont mise. Mais vraiment, je reviendrai plus tard, parce que je voulais encore parler des problèmes aussi avec certains personnages, comme Mark par exemple, qu'on introduit à la fin de la saison 3, comme le nouveau love interest de Ali, puisque Billy vient de mourir. Il s'annonce aussi comme un personnage assez fort en gueule. Ça a l'air d'être un avocat extrêmement fort qui est connu pour ses plaidoiries très développées et qui tourne en bourrique Ali McBeal pendant 1 ou 2 épisodes, et on se dit qu'il va pas se passer quelque chose entre eux. Et finalement, il y a le pont entre la saison 3 et la saison 4. Et là, je crois que les scénaristes se sont dit, on va trouver un autre love interest. Et c'est là où ils ont fait intervenir Larry Paul, joué par Robert Downey Jr. Et ce personnage de Mark passe aussi tout à fait au second plan. Pendant pas mal d'épisodes, d'ailleurs, il n'apparaît pas. Ou il apparaît éventuellement en fond d'écran, ou il vient dire juste une petite phrase à l'occasion. Mais insipide, sans saveur, vraiment rien du tout. C'est à un tel point qu'il disparaît entre la saison 4 et la saison 5 sans aucune explication. On ne sait pas s'il continue à travailler pour ce cabinet, on ne sait pas s'il est parti, on ne fait même plus allusion à lui, c'est assez étonnant. Et puis après, il y a aussi dans les personnages fadas, on a quand même Billy et Georgia, donc la femme de Billy, la rivale d'Ally McBeal, qui sont extrêmement fades. Ils sont juste là pour créer un triangle amoureux.
Ils ont bien fait de s'en aller, quoi.
Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, le triangle amoureux est pas extrêmement fin non plus, parce que c'est avec les grosses ficelles du « je t'aime, moi non plus, tu tombes amoureux de moi au moment où moi, je suis pas amoureux de toi, on se rate, il y a eu un malentendu, Georgia arrive en plein milieu, et sincèrement... Après coup, je sais que sur le moment même, ça avait été un des intérêts de la série, je sais que ça, beaucoup de gens avaient discuté là-dessus, etc., mais... Quand on regarde ça, c'est assez mauvais.
Que justement, c'est pas que c'était mauvais à l'époque, c'est que c'est mauvais maintenant et que ça a mal vieilli.
Ça a mal vieilli aussi parce que on se rend compte qu'Ali, alors qu'elle se défend d'être une femme forte, indépendante, etc., finalement, elle est assez rétrograde en fait. Elle attend le prince charmant, elle aimerait bien qu'un homme s'occupe d'elle. Elle subit les événements par rapport aux hommes. Sexuellement, c'est pas non plus une tigresse. Je veux dire, si on compte ses amants sur les 5 saisons par rapport à des séries, mais actuellement, il y en a pas 10. Et en plus, quand elle en a, elle couche rarement avec eux en plus. Il y a même un épisode où avec Greg, elle sort avec lui depuis des semaines et en fait, elle avoue à sa psychiatre, jouée d'ailleurs par Tracy Ullman, qui est un des guest stars de la série très très marquant, elle avouera qu'elle a jamais couché avec Greg. Et c'est vrai que quand on annonce une série un peu sulfureuse avec une femme forte sexuellement libérée, ça semble un petit peu limite.
Mais au final, même Sex and the City, qui se dit être une série féministe, quand on regarde le rôle principal, Carrie, elle l'est pas du tout et elle attend aussi le prince charmant. À côté de ça, c'est vrai que voilà, il y a...
Ils cherchent tous à se caser. Voilà. Hein, quand même, donc c'est à part Samantha, mais même vers la fin, elle finit par se caser. Bon, sauf avec les films où ils ont essayé de déconstruire ça, mais c'était très très mauvais. On va rester que sur la série. C'est vrai que Samantha, c'est la seule qui disait moi je peux vivre que par moi-même et j'ai pas besoin d'homme, juste alors limite pour avoir du sexe.
Et Ling reprend un peu ce rôle là dans Ally McBeal, je dirais.
En même temps, par exemple, à un moment, elle tient une boîte de striptease où des femmes, c'est pas vraiment du striptease, mais des femmes se battent dans la boue. Elle l'a en tant que femme d'affaires, elle le défend, mais à un moment dans l'épisode, elle va dire à Richard Fish qui a été s'amuser là-dedans, qu'elle appréciait pas en fait, parce que c'est du style business is business, mais en fait, en gros, je trouve ça assez dégradant pour l'image de la femme.
Ok, aujourd'hui vous avez 60 ans, on est dimanche après-midi, que faites-vous tous les deux?
Mamie et papy jouent avec leurs petits-enfants.
Combien en avez-vous?
On en a 7.
Ou peut-être qu'on discute au salon, c'est toujours tout raconté, Ali et moi.
Et à quoi ressemble Ali, Billy? Imaginez-la.
Elle est usée par les années.
Quel genre d'usure?
Ridée. Le visage, les lèvres...
Oh, attends une seconde.
Ali.
Non, temps mort. Pourquoi est-ce que mes lèvres seraient ridées?
C'est normal.
Elles sont parfaites, mes lèvres.
Tout s'arrangera avec le collagène.
Ce sont mes vraies lèvres.
J'ai jamais dit le contraire.
Bon, vous n'avez rien refait.
Hé, mon visage et mes lèvres sont parfaits, c'est vrai. Comme si j'avais besoin de chirurgie esthétique.
Tu plaisantes?
Qu'est-ce que je dois comprendre?
Rien du tout.
Non, vas-y, va jusqu'au bout, explique-toi.
Tu es rongée par l'orgueil. Pour vivre, il faut que tu croies être la plus belle.
Je ne le crois pas, j'en suis sûre. Je suis jolie. Et alors, c'est dans ma nature. Je suis née comme ça, ça n'est pas ma faute.
Ok.
Non, pas ok. Quand tu ne sais plus quoi répondre, tu contournes. Je veux ton avis
là-dessus. Tu te souviens quand tu voulais te faire refaire les seins?
Alors ça, c'était il y a longtemps d'abord. Et ensuite, à cette époque-là, c'était la mode. Ça n'avait rien à voir avec mon ego personnel.
Est-ce que je peux intervenir?
Non. Mais dis-moi, comment peut-on être attiré par une fille aussi orgueilleuse?
Mon attirance pour toi n'a rien à voir
mais
avec...
Mais enfin, ça n'a pas de sens de s'intéresser à une femme totalement obsédée par son look.
Ça a complètement un sens. Je suis tombé amoureux d'une narcissique qui, à force, a été défigurée par l'orgueil.
Oh, génial. Je suis narcissique maintenant.
Je crois qu'il pense que vous l'avez toujours été.
Silence.
Je peux te poser une question. Si je suis, comme tu dis, défigurée par l'orgueil, pourquoi es-tu tombé amoureux de moi?
Ça s'est passé quand j'avais 8 ans. J'étais trop jeune pour comprendre. Je ne voulais pas en arriver là.
Mais aujourd'hui, tu as pris de la bouteille, Billy, et tu sais tout.
Personnage récurrent de la série, en fait, Vonda Shepard. Ça, c'est assez particulier. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans les autres séries, que la personne qui interprète le générique se retrouve être dans la série, parce qu'en fait, régulièrement, à la fin de leur journée, ils se retrouvent dans un bar dans lequel cette chanteuse chante. Et ce qui est aussi de particulier, c'est qu'elle chante toujours des chansons qui font écho à l'état d'esprit d'Ally McBeal. On se rend compte qu'il y a vraiment eu un travail sur le son extrêmement fort, à la fois au niveau de la musique, donc dans les choix des chansons qui expliquent un peu ce qu'Ally vit, mais aussi dans sa vie de tous les jours, quand elle marche dans la rue, suivant son état d'esprit, suivant qu'elle est heureuse, qu'elle est triste, on a une musique qu'elle entend parfois d'ailleurs, et qui la met mal à l'aise, donc elle va s'arrêter de marcher, par
mais
exemple.
Mais c'est une triple redondance, finalement, parce que les affaires que Ali ou le cabinet traitent sont souvent un reflet de la vie privée d'Ali McBeal.
Aussi, oui. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de couches, ce qui rend parfois, quand on regarde des épisodes à la suite, le tout un petit peu indigeste, parce qu'on dit, oui, on a compris, on sait que là, elle est triste, là. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu surligné avec ces effets sonores.
Mais de nouveau, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'était pas super récurrent dans les séries à l'époque, cette histoire de différentes couches, et qu'on a beaucoup retrouvé par la suite, et qui peut sembler à présent indigeste aujourd'hui, parce qu'on le voit après avoir vécu toute une série de séries, justement, ou de feuilletons, qui, eux, ont beaucoup travaillé aussi là-dessus.
Oui, mais est-ce qu'il y a, et ça vraiment au niveau sonore, parce qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau sonore et au niveau visuel dans cette série, et donc des fois, il y a un peu un feu d'artifice qui est des fois très très amusant, et puis des fois un peu à côté de la plaque. Au niveau des côtés très amusants, c'est qu'au niveau des sons, donc il y a la musique, mais il y a aussi des sons qui, si Ali un moment est stressée, elle se retrouve à un personnage qu'elle n'attendait pas voir, on a une musique un peu de suspense qui se met en route, on a John qui, quand il prépare ses plaidoiries, il y a ces fameuses cloches qui se mettent en route aussi. Il y a Richard Fish aussi, mais ce n'est pas la même cloche. C'est une cloche un peu bébête, en fait. Ting, 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 ting qui est un peu...
Et quand Richard n'est pas très sûr de lui, il y a le disque des cloches qui dérape.
C'est ça aussi. On a aussi Ling et ses fameux rugissements aussi. Lorsque quelqu'un l'ennuie, elle fronce ses sourcils, on entend un... assez violent. Et d'ailleurs, c'est un des passages qui m'avait fait beaucoup rire aussi. C'est quand Ali essaye de la recopier, mais il n'y a qu'un petit miaou qui sort. C'est pas pareil. Ça, c'était assez chouette. Et puis, en plus, ils ont beaucoup aussi joué sur... ils vont souvent... voir la messe avec des passages gospel aussi qui sont mis extrêmement en avant, les apparitions de Barry White, Barry Manilow, énormément de chanteurs, ce qui fait que au niveau de la musique et des effets sonores, il y a déjà énormément, c'est très très chargé. Et ils ont carrément fait un épisode de comédie musicale aussi, qui était d'ailleurs pas franchement terrible parce que les chansons ont été assez grotesques.
Ils ont eu pas mal de guest stars aussi, bon, on n'a pas déjà parlé de Barry Manilow, de Barry White, il y a eu Al Green qui a aussi été une chanson récurrente dans la vie d'Ali, et Al Green a fini par apparaître dans un épisode. Tina Turner a participé, Maria Carey.
Josh Groban.
John Bon Jovi, non?
Il était là comme acteur.
Oui, il était là comme acteur, effectivement. Donc voilà, c'est assez chargé au niveau sonore. C'est assez chargé au niveau des rencontres amoureuses et de tout ce qui se passe dans la vie d'Ali, à la fois au niveau professionnel, au niveau relationnel, et c'est aussi chargé au niveau visuel, puisqu'on s'en souvient, on est souvent dans la tête d'Ali McBeal. Si quelqu'un l'ennuie, on va la voir en train de décrocher un punch du droit. Si elle se retrouve mal à l'aise par rapport à un jury, il y a une scie qui va lui découper les jambes, elle va se retrouver par terre. Au moment où elle se sent bien, on la voit flotter au-dessus de tout le monde, etc. C'est très très chouette, parce que franchement, c'est très inhabituel dans les séries, et ça a amené énormément de saveurs, et c'est vrai que ça accrochait le regard la première fois qu'on regarde, mais parfois quand on regarde ça bout à bout, à des moments on se dit oui, c'est un peu too much, surtout que des fois c'est pas très fin et c'est pas très bien amené, et des fois ça tourne au gimmick et ça en devient limite énervant. Je voulais aussi m'arrêter en fait sur la qualité de la série, sur la durée, parce que Ali McBeal, ça a vraiment été une série qui pour moi a été très fort en dents de scie, avec une saison 1 correcte sans plus, qui a juste installé un peu les personnages, et puis après tout d'un coup ils en ont ramené d'autres, avec notamment John Cage qui a été mis en avant, Ling qui est arrivé, et on a une explosion lors de la saison 2. Je pense que s'il y a vraiment une saison à regarder dans Ali McBeal et qui tient de bout en bout, c'est bien la saison 2, c'est drôle, c'est bien enlevé, etc. Et après malheureusement...
Ça se casse la gueule.
La terrible saison 3, je crois que c'est vraiment la saison de tous les risques pour la plupart des séries. Et là, justement, en plus, Ali McBeal a été mis en retrait parce que il y avait une telle effervescence autour des personnages secondaires qu'ils ont décidé de les mettre en avant. Et c'est devenu indigeste, franchement indigeste.
Et puis le départ de personnages principaux.
Voilà, ça n'a pas non plus été facile à gérer non plus, je pense, pour les scénaristes. Notamment Billy qui, d'un coup, est devenu assez fantasque aussi, alors qu'il était très très sobre. Mais on se rendra compte, en fait, qu'il a une tumeur au cerveau. Mais il faut savoir que l'acteur, en fait, Gil Bellows, avait clairement dit qu'il voulait arrêter la série parce que c'était la série Ali McBeal et que lui n'était jamais qu'un second rôle là-dedans, et qu'il était là pour faire mousser l'héroïne principale. Et quelque part, il y avait une forme de jalousie. Donc, ils ont décidé de le tuer, en fait, avec cette fameuse tumeur. Donc, s'il met un terme à cette saison 3 qui était vraiment catastrophique. On a recommencé avec une saison 4 où on a voulu créer un nouveau love interest pour Ali en mettant Larry Paul, joué par Robert Downey Jr. Là, on retrouve une certaine verve, une certaine facilité à suivre les épisodes avec à nouveau des effets visuels, sonores très très chouettes. Malheureusement pour les scénaristes, ils ont dû composer avec les démêlés judiciaires de Robert Downey Jr. qui a, comme on le sait, de nombreux démons avec la drogue et l'alcool et qui a dû faire quelques séjours en prison. Évidemment, c'est pas facile à gérer lorsqu'on essaye de créer une histoire sur la durée, parce que normalement, ça aurait dû être l'homme de la vie d'Ali et elle devait rester avec lui. C'était comme ça que c'était créé à la base. Eh bien, on a dû trouver des solutions pour le faire disparaître pendant quelques épisodes, d'abord, puisqu'il avait fait un court séjour en prison. Donc, on lui a inventé une histoire de fils qu'il avait eu lors d'un premier mariage et puis il quitte Ali McBeal pour aller essayer de recoller les morceaux avec son fils. Il revient encore quelques épisodes et puis à nouveau démêlé avec la justice, à nouveau en prison. Et là, ils se sont dit, bon, on arrête les frais là. Et donc, ils ont mis un terme à cette relation amoureuse. Et on ne comprend d'ailleurs pas trop pourquoi ils se séparent. Hein. C'est pas très clair, c'est pas très bien amené. Et la saison 5, ça a vraiment été la saison 5 qui est partie dans toutes les directions où ils sont vraiment essayé de chercher un nouveau souffle en disant mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter de nouveau? Alors d'abord, on a essayé de faire en sorte que Ali devienne le chaperon d'une jeune avocate qui débutait. On se souviendra d'une avocate qui était un peu dans la même situation qu'Ali à ses débuts, qui était dans un triangle amoureux avec un homme qu'elle aimait, mais qui était avec une autre, etc. Et pas facile à gérer. Là aussi, après quelques épisodes, ils se sont rendus compte que ça tenait pas du tout la route. Hop, on les a évacués. Arrive ensuite la fille d'Ali McBeal. Alors ça, c'est vraiment ridicule. Dans les mondes des séries, le don de sperme est assez fréquent, j'ai l'impression, parce que souvent, t'as des fils illégitimes ou des filles illégitimes qui arrivent chez mecs, mais les dons d'ovules aussi, ça se fait. Donc là, elle avait fait un don d'ovule étant jeune, ce qui n'est pas très cohérent avec le personnage qu'ils avaient construit, parce que vu l'hystérie de la Ali McBeal qui veut avoir un foyer, avoir des enfants, je la vois mal aller donner ses ovules comme ça à n'importe qui, mais bon. Une fille qui est jouée par Hayden Panettiere, hein, qu'on retrouvera après dans Heroes, qui n'a pas non plus un fort intérêt.
C'est Bobby sous la douche, hein, Bobby qui se réveille après un an de rêve, oui. Dans Dallas. Hein.
C'est ça, c'est la fille qui vient toquer à la porte. Coucou maman! Bon voilà, donc voilà, ça c'était assez mauvais.
Le saut au-dessus du requin.
C'est vraiment ça.
Ça me fait un peu penser aussi d'ailleurs à l'arrivée de la sœur de Buffy dans ce style, je trouve.
Mais en l'occurrence, la sœur de Buffy s'était construite depuis 2 saisons avant. Ça avait été annoncé. Pour les gens qui ont très très fort suivi la série, ça avait été annoncé. Mais c'est vrai que ça a pu surprendre, mais ça avait un sens aussi là.
T'as dit que là, ça n'en avait pas.
Non, ça y en avait pas. Par contre, ça a permis aussi de mettre un terme à la série, puisque
avec le pire épisode de fin de série que j'ai pu voir dans ma vie,
c'est
je pense.
Clair. C'était assez mauvais. Donc,
je vois dans la coulisse Sarah qui dodeline de la tête.
Oui. Ali McBeal qui décide en fait de quitter le cabinet pour en fait aller vivre avec sa fille là où sa fille a vécu étant plus jeune pour qu'elle soit à nouveau dans son environnement naturel entre guillemets. Et donc il décide de les quitter. Et alors la scène finale est dégoulinante où en fait elle retrouve tous les personnages, même ceux des fois qui avaient disparu depuis une saison ou deux, on savait même plus ce qu'ils étaient devenus, genre Georgia, Jean-René, on sait même, enfin c'est complètement grotesque.
C'est et des morts.
Voilà, et non, même pas. Elle fait un petit mot à chacun d'entre eux. Ah mais en fait toi tu es quelqu'un de gentil, toi je ne t'oublierai jamais, blablabla.
Elle préparait son arrivée dégoulinante dans Brothers and Sisters en fait.
Oui. Je crois, mais c'est vrai que c'est sirupeux et ça ne fait même pas pleurer en fait. Je me souviens des fins de série qui sont très fortes. Là, franchement, on a envie de dire oh là 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 là, mais qu'est-ce que
on est loin du dernier épisode de Six Feet Under.
Oui, on en est très 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 loin. Donc voilà, quoi retenir finalement d'Ali McBeal? Bonne série pour la saison 2 et éventuellement la saison 1. Franchement, si vous avez envie de vous lancer dans la série, voilà. Ne vous attendez pas à une série féministe outre mesure, ça reste quand même assez rétrograde. Le seul truc qui est intéressant, par contre, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est intéressant de voir qu'Ali McBeal avait une forme d'hystérie parce qu'elle était un peu entre deux formes de pression, en fait, de la société. D'un côté, qui pousse en disant, il faut avoir des enfants, il faut être marié, il faut être la bonne femme au foyer. Et puis de l'autre côté, oui, il faut être libérée sexuellement, il faut être femme indépendante. Et elle était un peu dans cette jonction, en fait. Après est arrivée Sex and the City, après est arrivée d'autres séries.
Qui ont même peut-être conduit à la ringardisation d'Ali McBeal, justement.
Oui, aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est dans ce no man's land, dans cette jonction, on se dit, mais où on en est maintenant?
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.